La semaine dernière, pendant la présidence du culte, je vous avais proposé de lire un texte dans le prophète Sophonie. Alors, c'est un petit peu compliqué à trouver, peut-être. Ce matin, ce sera beaucoup plus simple, puisque je vous invite à ouvrir votre Bible à la première page. Genèse, chapitre 1, verset 1. Et nous limiterons même notre lecture ce matin exclusivement à ce premier verset. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Un seul verset qui suffira largement à alimenter notre méditation ce matin. J'ai pensé que d'évoquer la création et le Dieu créateur en cette période de vacances pouvait être approprié, puisque c'est souvent un temps privilégié où nous pouvons ouvrir les yeux et admirer les beautés, les chefs-d'œuvre de la création. En hébreu, qui est la langue originelle du texte de l'Ancien Testament, en hébreu, ce premier verset, il contient 7 mots. Et dans la symbolique biblique, le chiffre 7 est celui de la perfection divine. Et ce n'est pas un hasard si la première phrase de la Bible contient 7 mots. C'est comme si on avait en condensé dans cette première phrase toute la perfection de Dieu, toute la perfection de l'acte créateur qui va nous être décrit en détail dans tout le chapitre qui suit. Et je vous propose simplement ce matin d'explorer en 4 étapes cette première phrase de la révélation biblique. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. En le prenant dans l'ordre des mots en hébreu, qui est un tout petit peu différent de la traduction en français, mais qui commence de toute façon par ce premier mot, ces deux premiers mots en français, au commencement. Au commencement, Bréchit en hébreu, je ne vais pas vous dire tout en hébreu, hein, mais là ça compte quand même, parce que il se trouve que la première lettre de ce premier mot, le bet hébraïque, qui correspond au B français, c'est la deuxième lettre de l'alphabet, pas la première. Le premier mot de la Bible commence par la deuxième lettre de l'alphabet. Comme si, déjà avec cette première lettre, on sous-entendait qu'il y avait quelque chose avant. On commence pas avec la première lettre de l'alphabet, mais avec la deuxième. Au commencement, comme si avant ce commencement évoqué ici, il y avait déjà quelqu'un. Dieu était là. Et il se trouve d'ailleurs que Dieu, Elohim en hébreu, commence par la première lettre de l'alphabet. Ça n'est sans doute pas un hasard là aussi. Et c'est comme si, dès la première phrase, dès le premier mot de la Bible, on affirmait l'éternité de Dieu. Avant même le commencement, Dieu était là. Il est toujours là, il a toujours été là, et il sera toujours là, parce qu'il est Dieu. Point. Ce Dieu éternel qui nous est révélé dès le premier mot de la Bible, ce Dieu éternel nous est révélé dans la suite de l'Écriture. Et il y apparaît comme un Dieu qui entre dans notre histoire, qui se révèle. Georgine a évoqué quelques récits d'appel où le Seigneur s'est révélé, mais il s'est révélé à Abraham, à Isaac, à Jacob, il s'est révélé à Moïse pour faire sortir son peuple, il s'est révélé à David, il s'est révélé aux prophètes, nombreux qui ont transmis cette révélation de Dieu. Ce Dieu éternel est entré dans notre histoire pour se révéler. Ce Dieu hors du temps s'est incarné. En Jésus-Christ, Dieu est devenu homme. Et il est entré comme un personnage de l'histoire de l'humanité. Et ce Dieu éternel, hors du temps, infini, nous promet sa présence en nous, aujourd'hui, par son Esprit. Ce Dieu éternel, ce Dieu qui est toujours là, est le Dieu qui est toujours présent en nous, avec nous, Et il faut que ce soit le Dieu éternel pour qu'il puisse nous faire cette promesse. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seul le Dieu éternel peut tenir une telle promesse. Au commencement, toujours là, Dieu est toujours là. Au commencement, il créa. Rien n'existe dans notre univers en dehors de l'acte créateur de Dieu. Rien. Le premier verbe associé à Dieu est celui de la création. Au commencement, il créa. Et en hébreu, devinez combien de fois le verbe créer apparaît dans tout ce premier chapitre. Je vous le donne en 1000. 7 fois. Comme par hasard. La perfection de l'acte créateur de Dieu. Dieu se révèle en tant que créateur. C'est le premier attribut de Dieu dans la Bible. Dieu est créateur. Il fait naître, il façonne, il organise, il donne vie, il crée. Il est un artiste de génie et on peut le voir autour de nous en admirant sa création. Dans notre vie aussi, il veut être créateur. Mais à cause du péché, à cause du mal entré dans le monde, dans l'humanité, ce Dieu créateur doit devenir un Dieu recréateur, réparateur, le médecin, le reconstructeur. Celui qui peut désormais, par son esprit en nous, créer un cœur nouveau, faire naître une vie nouvelle, reconstruire nos vies brisées, séparées de lui, du Créateur. Il vient créer, il vient recréer en nous ce que nous avons brisé en nous éloignant de lui. Ce Dieu créateur, dès la première phrase de la Bible, nous montre que Dieu est toujours à l'œuvre, sans cesse, jamais inactif. Dieu, ce n'est pas un simple concept philosophique. Dieu, c'est celui qui nous a créés, celui qui a créé toutes choses, celui qui est toujours actif, toujours à l'œuvre. Il n'est pas spectateur dans sa création, il est acteur. Et il veut être acteur dans notre vie. Au commencement, il créa. Dieu créa. Alors, après l'hébreu, faisons un peu de grammaire. Et c'est bizarre comme vacances, hein. Quand on regarde la formulation de cette phrase, en hébreu comme en français d'ailleurs, on voit que Dieu ici a la place du sujet et non du complément du verbe. C'est Dieu qui crée. Il crée, mais il n'est pas créé. Et Dieu dont il est question ici, c'est Elohim en hébreu. Elohim, c'est une forme plurielle. On pourrait mettre Dieu au pluriel. Le problème, c'est que quand on regarde la façon dont les choses sont formulées en hébreu, c'est qu'on a un sujet au pluriel et on a un verbe au singulier. C'est une erreur grammaticale, mais c'est une anomalie grammaticale volontaire. On ne peut pas faire autrement, parce que on n'a pas les mots ou la grammaire ou le langage approprié pour parler correctement de Dieu. Dieu est toujours plus grand. Il est toujours plus grand que nos mots, toujours plus grand que notre langage. Toujours plus grand que ce que nous pouvons dire de lui, toujours plus grand que ce que nous pouvons penser de lui. Il y a une impossibilité foncière de tout langage humain à pouvoir dire la réalité de Dieu. On peut un petit peu s'en approcher, à peine, mais Dieu est toujours plus grand que ce que nous pouvons dire de lui. Il sera toujours plus grand que les cadres théologiques ou dogmatiques que l'on pourra définir. Aussi précis soit-il, aussi élaboré soit-il, aussi biblique soit-il, Dieu sera toujours plus grand, parce qu'il est Dieu. C'est justement parce qu'il est Dieu qu'on ne peut pas l'enfermer dans aucun cadre. Un Dieu qu'on peut maîtriser, un Dieu à échelle humaine, un Dieu que l'on peut enfermer dans une image ou dans un dogme, c'est une idole. Une idole, c'est un Dieu à l'échelle humaine, qu'on arrive à maîtriser, à cerner, à comprendre complètement. Mais le Dieu biblique, le Dieu vivant et vrai, celui qui se révèle à nous dans l'Écriture, celui qui s'est incarné en Jésus-Christ, ce Dieu-là, notre Dieu, on ne peut l'enfermer dans aucune image, dans aucune construction théologique ou philosophique. Il sera toujours plus, toujours plus grand que ce que l'on pourra dire, que ce que l'on pourra même penser. Et ce Dieu-là, c'est ce Dieu-là qui nous est révélé dans l'Écriture, dès la première phrase de la Bible, ce Dieu au pluriel qui est conjugué au singulier, ce Dieu-là nous invite à l'humilité. Et ne jamais penser, ne jamais croire qu'on a fait le tour du sujet, qu'on a compris, qu'on est arrivé, mais on est toujours en chemin, en apprentissage de connaître qui est vraiment notre Créateur, celui qui a créé le ciel et la terre. Et c'est la dernière partie de ce verset. Le ciel et la terre. Cette expression désigne simplement l'ensemble de l'œuvre créatrice de Dieu. Il a tout créé. On pourrait dire, il a créé l'univers. C'est la totalité de l'univers qu'il y a derrière cette expression, le ciel et la terre, mais perçue du point de vue de la terre. Si on avait dit Dieu a créé l'univers, on aurait quelque chose de très englobant, très général. En disant Dieu a créé le ciel et la terre, on va dire la terre c'est là où on vit, et le ciel c'est tout le reste, tout ce qui nous entoure. Et même en hébreu, là aussi c'est un terme au pluriel. D'ailleurs dans les anciennes versions on disait les cieux et la terre. Pour dire qu'il y a la terre où l'on vit et tout le reste de l'univers que Dieu a créé. Et là encore, cette affirmation nous montre que Dieu est plus grand et que son œuvre est plus vaste que ce que l'on peut percevoir. Dieu lui-même, le Dieu de l'univers, puisqu'il a créé toute chose, est plus grand que l'univers. Plus grand que notre système solaire, plus grand que notre galaxie. Qui sait ce que Dieu fait aujourd'hui dans d'autres galaxies? Vous savez, vous? L'œuvre de Dieu est toujours plus vaste que ce que nous pouvons observer. Et c'est vrai à l'échelle de l'univers. Pourquoi penser que Dieu n'agirait que sur notre bonne vieille planète Terre? Allez savoir, est-ce qu'il y a des extraterrestres? Alors, je ne parle pas des soucoupes volantes, des petits hommes verts, ça c'est du folklore, mais qui sait si Dieu n'a pas fait une œuvre créatrice ailleurs, dans notre monde, dans notre univers? L'univers est si vaste. L'œuvre de Dieu est bien plus vaste que ce que nous pouvons percevoir et même imaginer. Qui sommes-nous pour limiter l'œuvre de Dieu à notre vieille terre, si petite dans l'univers? L'œuvre de Dieu est toujours plus vaste que ce que nous voyons ou percevons. Et si c'est vrai au niveau de l'univers, c'est vrai aussi à notre échelle, à l'échelle de notre vie, à l'échelle de la vie de notre prochain. Son œuvre est toujours plus vaste que ce que nous voyons. Elle est toujours plus étendue que ce que nous percevons. Et nous devons là aussi nous garder de limiter l'action de Dieu à notre vie, de voir pas plus loin que le bout de notre nez ou que de notre nombril, mais d'admettre que Dieu puisse et agisse de fait bien au-delà de ce que nous pensons, des limites que nous parfois inconsciemment nous fixons à Dieu dans notre vie, dans la vie de nos frères, de nos sœurs. Dieu a une œuvre, une action bien plus vaste que ce que nous voyons et nous percevons. Laissons-nous surprendre par ce Dieu plus grand et plus vaste. Ce premier verset de la Bible nous fait entrer en sept mots en hébreu, nous fait entrer de plein pied dans la révélation de Dieu qui va s'étendre sur l'ensemble de tous les livres bibliques. Et le Dieu qui nous y est révélé, dès la première phrase, ce Dieu-là rime avec toujours. Il est toujours là. parce qu'il est le Dieu éternel. Il est toujours à l'œuvre parce qu'il est le Dieu créateur et qu'il veut être acteur, créateur, tout à nouveau dans notre vie. Il est toujours plus grand que ce que nous pouvons croire et imaginer, et son œuvre est toujours plus vaste que ce que nous pouvons voir ou imaginer. Voilà pourquoi, si on accepte de ne pas enfermer Dieu dans des cases, dans des concepts, dans des dogmes, dans des types d'expériences, voilà pourquoi, si on reste ouvert à ce Dieu, alors on pourra se laisser surprendre par lui. Car ce Dieu qui est toujours là, qui est toujours à l'œuvre, qui est toujours plus grand et toujours plus vaste, est aussi un Dieu qui nous aime et qui nous aime toujours. Amen.